Bonsoir à chacun. Bienvenue. Merci d'être présent pour cette deuxième rencontre sur le livre de Jonas. Merci à Frédéric pour ce qu'il nous a apporté cet après-midi déjà. On se réjouit pour la suite. Je vous propose de prier pour commencer cette réunion. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, une fois de plus, nous nous attendons à toi pour que tu nous instruises, que tu nous touches par ta parole, par la bouche de ton serviteur, que nous puissions être repris, être encouragés, que nous puissions mettre en pratique aussi ce que tu nous enseignes, et pas être des auditeurs oublieux. Seigneur, parle à nos cœurs par ton esprit. Redonne-nous courage, force pour les plus faibles. Reprends-nous, Seigneur, si nous en avons besoin. Mais Seigneur, nous voulons confesser et redire aussi que c'est avec toi que nous voulons être, en paix avec toi. Merci, Seigneur, pour ces moments ensemble et bénis ta parole et ton serviteur ce soir. Amen. Peut-être juste avant de laisser la place à Frédéric, juste dire un petit témoignage. On a eu le chapitre 1 cet après-midi. On aura, je pense, le 2, j'imagine, ce soir, peut-être un peu plus loin. Moi, j'attends le 4 parce qu'il y a un verset que j'aime bien, qui me fait penser à peut-être quelque chose qu'on a vécu tous aussi en étant ados, peut-être. Mais je serai pas là au 4 parce que je serai avec les enfants avec l'école du dimanche demain. Mais je me réjouis du chapitre 4, verset 9. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter. Alors, la balle est dans notre camp. Bonne écoute. À toi, Frédéric.
J'ai cru qu'il allait faire mon message de demain matin. Hein voilà. Alors, effectivement, cet après-midi, nous avons vu le chapitre 1er. Il n'y avait pas d'aide vidéo. On a pu bricoler, on a pu voilà la mettre pour ce soir et demain. Donc, le chapitre premier, pour ceux qui n'étaient pas là, je ne fais pas un grand résumé, simplement signaler que Jonas a fui, s'est mis en opposition à l'ordre que Dieu lui avait donné. Il devait aller à Ninive, il part à l'opposé, vers l'Espagne, à Tarsis. Il prend un bateau, et là, sur ce bateau, Dieu le rappelle par une tempête, et nous sommes arrêtés pas mal sur la réaction de Jonas, et en même temps, un petit peu ce qui pouvait être sous-entendu, son combat intérieur, et je me suis arrêté pas mal sur la conscience, comment est-ce qu'on gère un petit peu, au jour d'aujourd'hui, la conscience, qu'est-ce que la conscience, etc. Voilà, donc je ferai toujours un petit geste là-bas parce que j'ai pas la télécommande, mais ça va marcher. On retrouve donc Jonas dans la mer, parce que quand il s'est rendu compte et il le savait que la tempête venait était à cause de lui, il dit aux marins, si vous voulez vous sauver, eh bien il faut me jeter à l'eau. Et les marins, effectivement, le jettent à l'eau. Alors, dans la voiture, on m'a fait remarquer, c'est une très bonne remarque et je la dis, pour compléter par rapport à cet après-midi, on a l'impression, quand j'ai parlé cet après-midi, que bah, il le jette à l'eau et puis tant pis pour toi, vaille que vaille, débrouille-toi avec ta vie. Mais il semble quand même que les marins, effectivement, étaient sensibles à cet acte, à ce geste. Lorsqu'ils ramaient, verset 13, pour gagner la terre, ils ne le purent pas. Donc ils essaient par leur propre force, et quelqu'un me l'a fait aussi remarquer, d'y arriver par eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils réalisent que ce qu'avait dit Jonas, c'était peut-être la solution. Donc ils invoquèrent l'Éternel, le Dieu de Jonas, hein, et ils dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Donc quelque part, quand ils jettent Jonas à la mer, ils sont conscients qu'il va mourir, Mais il se décharge un petit peu de la responsabilité. C'est pas nous, hein, c'est toi, hein, qui le veut, parce que c'est lui qui le dit. Vous voyez, voilà. Il faut pas penser que les marins font ça, allez, et puis après ils se remettent à leur partie de cartes. Hein, non, c'est quand même important ce qui se passe. Mais ils l'ont quand même jeté, effectivement. Et Jonas se trouve dans l'eau. Nous avons donc vu cet après-midi l'étrange sommeil, hein, le sommeil du juste. C'était le premier point. Pourquoi il dormait? Pour oublier un petit peu tout cela. Alors, tout comme le chapitre 1, je vous avais dit qu'il était structuré. On va mettre le chapitre 2, et là, vous le verrez mieux, parce que bon, le premier devait apparaître aussi comme ça, où il y a effectivement cette structure dont j'ai nommé un chiasme, avec une idée au centre, qui est mise en avant par l'auteur, volontairement, en mettant des idées identiques, ou des textes identiques, pour focaliser sur une pensée. Voilà, chapitre 1, c'était le sommeil, c'était Jonas au fond de bateau. Et là, vous allez voir, je vous le mets exprès maintenant, parce qu'en plus, il y a des versets. Vous voyez, on va lire le chapitre 2, et vous verrez ces parallèles qui arrivent. Alors, chapitre 2, verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu, et il dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Donc l'idée qui est unique, en fait, c'est Jonas anéanti, Jonas qui prie, Jonas qui crie, qui reprend, j'ai envie de dire, contact avec Dieu, ce Dieu qu'il veut fuir, enfin pas forcément ce Dieu, mais la mission qu'il lui a demandé, celle d'aller à Ninive. Et donc voilà une deuxième confrontation subie par Jonas après celle de la tempête. Voilà l'épisode du poisson. Celui-ci, donc, le poisson, est employé par Dieu pour faire revenir son prophète à la raison, d'où le titre de notre deuxième étude de ce soir. On va mettre le titre. Les grands moyens. Bon, c'est arrivé un petit peu avant, mais c'est pas grave. La descente hallucinante. En effet, Dieu a l'intention d'envoyer son prophète à Ninive. Il n'est pas question que celui-ci, hein, parce qu'il veut pas, et on verra un peu mieux demain matin pourquoi, finalement gagne la partie. Non, non, c'est comme ça, je te veux là-bas, tu iras là-bas. Et on se rend compte qu'il y a eu une descente progressive, dès le début du texte, on le remarque. Chapitre 1, verset 3, Jonas descend à Jaffa, c'est-à-dire qu'il descend au bord de la mer pour prendre le bateau. Ensuite, Jonas descend à fond de navire. Toujours une descente. Et il dort. Ensuite, Jonas est demandé à être jeté dans la mer. C'est une descente différente, mais qui est quand même encore un peu plus bas. Et puis, il va encore plus bas parce que lorsqu'il est happé par le poisson, voilà qu'il se trouve, il le dit lui-même dans ce chapitre 2, jusqu'aux racines des montagnes. Car à un moment donné, il réalise où il se trouve. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Toujours, toujours, toujours une descente. Et j'ai envie de dire, de faire parler Dieu en lui disant à Jonas, tu veux des émotions? Ben, tu vas en avoir. Tu vas être servi. Mais la remarque que je veux faire, c'est que la dernière descente, celle dans laquelle il est avec le poisson et dans le poisson, Jonas ne la provoque pas. Autant quand il descend à Jaffa, il le décide. Il descend à fond de cale, je le décide. Jetez-moi à la mer, je le décide. Encore qu'ils n'étaient pas obligés de le faire, mais ils l'ont fait. Donc, il tient les choses en main. Mais une fois qu'il est à l'eau, terminé. Il ne tient plus rien du tout. Si il espère une chose, je dis, mourir. Car c'est pour ça qu'il voulait être jeté à l'eau. Et dans le contexte du livre, je l'ai rappelé cet après-midi, et on le verra un peu mieux demain, Jonas veut mourir plutôt que d'aller accomplir la mission. Donc en fait, une fois qu'il est à l'eau, il perd le contrôle de la situation. Il n'est plus maître des événements. C'est Dieu qui prend les choses en main. Un peu comme si Dieu nous disait, « Ok, jusqu'à maintenant, tu as voulu, maintenant descends de ta voiture et laisse-moi la place du conducteur. Passe à côté et tu verras que ça va changer les choses. » Oui, tu tiens pas les choses en main. Tu peux me dire quelque chose, je le ferai ou je le ferai pas. Mais c'est pas toi qui tiens le volant, c'est moi. Mais cette fois, Jonas ne risque rien, parce qu'il vient de tomber entre les mains de Dieu. Et il y a un épisode dans l'Ancien Testament qui est assez extraordinaire à ce sujet. C'est David, j'en ai parlé déjà cet après-midi, mais David a fait une deuxième erreur à la fin de sa vie, après l'adultère dont j'ai parlé cet après-midi. Il a voulu, à la fin de sa vie, dénombrer le peuple. Mais en fait, le texte montre qu'il dénombre pas forcément le peuple, il dénombre l'armée. Pour savoir un petit peu quelle puissance il avait amené le pays, à quelle puissance il avait amené le pays. Et ça, ça déplaît à Dieu, péché d'orgueil. Et David se rend compte, quand il dénombre et que le dénombrement est fait, qu'il vient de faire une erreur. Il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Et Dieu dit, oui, tu as péché contre moi. Alors voilà ce que je te propose, parce que tu as péché, il va y avoir une conséquence. Je te propose trois fléaux, trois choses. Est-ce que tu veux de la peste dans ton pays, 3 années de peste? Est-ce que tu veux fuir devant tes ennemis? Deuxième chose. Ou est-ce que tu veux 7 ans de famine? Je crois que c'est ça, il me semble, de mémoire. Et David, il y avait un piège, entre guillemets, dans le sens où Dieu lui dit, par rapport aux armées extérieures, tu dis que tu as dénombré ton armée, donc t'es costaud, t'es puissant, on va voir si tu te crois fort. Et David a cette parole extraordinaire, il dit, « Ô tombons entre les mains de l'Éternel, car il est compatissant et miséricordieux. » Et il va choisir la peste qui est provoquée par Dieu. Parce qu'il se dit, Dieu, si c'est Dieu qui est maître de cette situation-là, peut-être il va lever son bras. Et effectivement, quand l'ange exterminateur vient sur Jérusalem, le texte montre qu'il s'arrête. Et ça, c'est un texte extraordinaire, 2 Samuel 24. Il s'arrête, et là où il s'arrête, il se trouve en fait, vous y réfléchirez, vous l'étudierez, sur le lieu qui sera plus tard le lieu du Golgotha. Où c'est Dieu lui-même qui prendra le châtiment. Enfin, bon, c'est encore une histoire qu'on pourrait développer. Alors, ne faisons pas dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Il s'agit dans le texte, non d'une baleine, mais d'un grand poisson. Alors, vous me direz, le dessin, il est pas bon. C'est vrai, mais j'ai trouvé ce dessin sympa, alors si je vais quand même le mettre, mais ça correspond pas forcément à la réalité. Mais c'est ancré un peu dans les esprits. Or, le texte ne mentionne pas du tout l'espèce animale. Il en est de même, d'ailleurs, pour le fruit du jardin d'Éden. Hein. Ce n'est pas la pomme, hein, comme on le dit souvent. C'est un fruit. On ne sait pas ce que c'est comme fruit, mais c'est un fruit. Alors, quelle importance, me direz-vous? Est-ce si grave que cela? Oui, je le crois. Non seulement... le texte n'est plus respecté quand on prend ce genre de liberté, mais c'est la parole même de Dieu que l'on met en doute, en trouvant peut-être des choses qui pourraient nous arranger. Parce que beaucoup de théologiens et de chrétiens, adeptes du scientifiquement correct ou raisonnable, s'achoppent sur l'événement surnaturel de Jonas et le placent comme un obstacle à une interprétation littérale du livre. En disant, c'est pas possible que Jonas ait pu être dans le ventre d'une baleine, etc., d'un poisson. Alors naissent toutes sortes de réflexions. Jonas a-t-il été réellement dans le ventre du poisson? N'a-t-il pas finalement confondu avec un gros navire ayant une sculpture de poisson à sa proue et qui au moment où, quand il était à l'eau, est venu sur lui, l'a assommé et puis il s'est fait tout un cinéma et il a raconté une histoire qui en fait ne lui est pas vraiment arrivée. Et toutes ces questions vont semer le doute dans les esprits pour ôter le sérieux du livre tout entier. Car si ce n'est pas une histoire vraie, et nous allons comprendre ce soir que c'est vraiment vrai, alors on peut mettre en doute que même ce qui est derrière au niveau de l'enseignement théologique dont on peut en sortir. Je crois de tout mon cœur à la puissance de Dieu. Vous aussi ? Oui ? Dieu est puissant. Amen. Je crois de tout mon cœur au miracle de Dieu. Ok ? Et même encore aujourd'hui, il y a des miracles. Ceux qui sont racontés dans l'Écriture, bien sûr, et ceux qui s'opèrent encore aujourd'hui dans le corps de Christ. Et s'il est légitime de se poser des questions, l'apôtre Paul met en garde contre une réflexion basée sur la philosophie ou la tradition humaine. Dans l'Épître aux Colossiens, par exemple, il le dit très clairement, Colossiens 2, verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, vous avez tout pleinement en lui, etc. » Alors on peut s'interroger, c'est vrai, et je pense pour la petite note humoristique du soir, comme cet homme non-croyant, qui demande à son compagnon chrétien assis à ses côtés, ils sont en train de pêcher au bord d'un lac, et lui dit « Dis donc toi qui crois au petit Jésus, l'histoire de Jonas avec la baleine, quand même, dis pas que tu y crois. » « Ben écoute, répond le chrétien, ouais, moi j'y crois, mais je lui demanderai quand je serai au ciel à Jonas, moi je serai convaincu, je serai sûr. » « Ah bon ? Parce qu'en plus, tu crois que Jonas, il est au paradis ?»« Ben oui, » répond le chrétien. « Et puis, s'il n'y est pas, ben, tu y poseras toi-même la question. » Attention donc à ne pas aller trop loin. Il y a des passages de l'Écriture qui sont difficiles. Et c'est certainement bien ainsi. Ce n'est pas parce que l'on ne comprend pas certains passages ou événements de l'Écriture qu'il faut essayer à tout prix de trouver des explications rationnelles, j'ai envie de dire, pour sauver la face. Je voudrais citer Luther, qui écrit ceci. « Si Moïse a écrit que Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve en 6 jours, ne lui fais pas dire autre chose, ne t'aventure pas à commencer le récit en affirmant que les jours n'en étaient qu'un seul. Si tu ne peux pas comprendre comment cette œuvre a pu se faire en 6 jours, accorde au moins au Saint-Esprit l'honneur d'être plus érudit que toi, car il t'est demandé de ne pas oublier que ce que tu lis dans l'Écriture, Dieu lui-même l'a écrit. Et parce que c'est Dieu qui parle, il n'y a pas lieu pour toi de faire dire à sa parole ce que toi, tu aimerais qu'elle dise. Cela ne donne pas forcément de réponse à tout, n'est-ce pas ? Et c'est normal, et on a besoin de continuer à réfléchir, mais attention, attention, parfois on peut aller très loin, et on peut même minimiser des choses que Dieu ne veut pas que l'on minimise, et qu'il veut qu'on prenne simplement, comme je l'ai dit cet après-midi, comme étant des petits-enfants, simplement. À travers certaines difficultés d'explication ou d'interprétation, Dieu veut peut-être aussi, et certainement, mettre notre foi à l'épreuve. Et puis on se rend compte qu'au fil des années, certaines choses se mettent en place, des lumières jaillissent, parce que on apprend on découvre la parole de Dieu dans son ensemble. Vous savez, la Bible s'interprète par la Bible. J'ai souvent vécu cela. Il y a des textes que je ne comprenais pas dans le passé, et en élargissant mon horizon, en lisant les textes, en voyant la Bible de plus haut, bien, il y a des harmonies qui se font. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, vous m'invitez depuis quelques années, mais j'essaie d'expliquer par des histoires aussi tirées de la Bible, et c'est un principe que j'ai, et je trouve que c'est important que ce soit la Bible elle-même qui nous éclaire sur des événements. Et vous verrez demain matin en particulier, j'éclairerai une question qui pourrait nous laisser vraiment un peu dans le doute sur un point particulier et important. Par une histoire, nous trouverons un moyen de répondre. Dans ce qui peut-être est difficile parfois à mettre en place et ces lumières qui peuvent jaillir, eh bien je pense particulièrement au domaine prophétique, hein, où nous sommes curieux de connaître ce qui doit arriver. Nous avons des textes comme l'Apocalypse qui sont des textes difficiles. On sonde alors les écrits, hein, ces prophètes en particulier, ou ce livre, et on est coincé, on est frustré de ne pas tout comprendre. Il viendra un temps où la compréhension se fera, selon ce que dit Daniel. Plusieurs liront et la connaissance augmentera. L'essentiel n'est pas de comprendre ce qui va arriver, dans ce sens-là, je fais une parenthèse, mais de discerner où nous en sommes aujourd'hui et où nous en sommes nous personnellement, avec le Seigneur. C'est quand même important. Donc je donnerai dans un moment une réponse à notre question et une argumentation, car il y en a une. Jonas a-t-il réellement vécu l'expérience du poisson ? Vous voyez, j'emploie volontairement le réellement, parce que j'en ai parlé cet après-midi pour ceux qui étaient, avec le doute, hein, dont le diable s'est servi dans le jardin d'Éden. À Ève, Dieu a-t-il réellement dit « tu ne mangeras pas du fruit ». Car vous verrez qu'il y a une explication très simple, tirée de la parole même de Dieu. Le poisson est donc utilisé par Dieu, un, pour le sauver de la noyade, nous le comprenons, et deux, pour le discipliner et le conduire à accepter la mission qui lui est donnée. Il n'est pas prêt, il fait la forte tête, on va essayer de le ramener à la raison. Nous en arrivons donc tout naturellement à aborder la prière de Jonas, exprimée du sein du ventre du poisson. Et après la descente hallucinante, nous avons la solitude de Jonas. Pour mieux réaliser un petit peu ce qui se passe, j'aimerais vous faire réaliser et que nous fassions un effort de mémoire, ou un effort d'imagination, pardon. Imaginez en effet que vous êtes instantanément plongé dans l'obscurité la plus totale. Tous vos sens alors se mettent en action. Vous touchez une matière autour de vous, je sais pas, j'imagine, un peu visqueuse, un peu gluante, un peu bizarre. Vous sentez, et l'odeur que vous avez vous renvoie à votre poissonnerie du coin, n'est-ce pas? Vous entendez des bruits jusqu'alors inconnus, qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez pas forcément si vous avez la tête en haut ou si vous avez la tête en bas. Voilà la situation de Jonas. Alors, il n'y a pas son briquet, la poche pour tester et regarder où il se trouve, hein. Mais peut-être j'imagine que des sueurs froides pourraient transpercer un petit peu son corps, de la tête aux pieds, engendrant instantanément des tremblements peut-être d'angoisse et de peur. Mais où suis-je? J'ose imaginer, j'ose espérer même pour lui qu'il n'a pas vu le poisson arriver, que le poisson est arrivé par derrière. Ça aurait été une adrénaline de moins à supporter. Bref, il est là. Et on comprend alors cette parole de Jonas qui dit « Du sein du séjour des morts, j'ai crié, tu as entendu ma voix. » Se croit-il mort à un moment donné? Cette mort qu'il souhaitait tant? Peut-être. Mais au bout d'un moment, et peut-être pas si longtemps que ça, il doit se rendre compte qu'en se pinçant, tout ça, il est bien en vie. Hein, voilà, donc mais où? Du sein du séjour des morts. C'est comme si j'étais mort. Et c'est vrai. Comment en sortir? Tu as entendu ma voix. Puis les autres termes qu'il emploie dans ce cri, dans l'abîme, le cœur de la mer, je suis chassé. Il parle des racines des montagnes, donc là où il se trouve, au fond, les barres de la terre, je suis dans la fosse. Sous-entendu, cette vallée pleine d'eau, etc. Jonas est-il en train de se mordre les doigts en se disant, mais qu'est-ce qui m'a pris de leur demander aux marins de me jeter à l'eau? J'aurais mieux fait de rester sur le bateau avec eux. Parce que la noyade espérée n'a pas eu lieu. Me voilà donc bien dans de beaux draps. Et j'ai envie de dire que l'obscurité, cette fois, n'est plus un refuge recherché comme cet après-midi. Nous avons dit qu'il était allé à fond de cale et il était certainement mis dans l'obscurité, hein, ou pas totale, parce que il y avait certainement des points où la lumière pouvait rentrer, j'imagine en tout cas. Mais là, cette fois, cette obscurité devient effroyable, inconnue, mais imposée par le Seigneur. Et c'est là que Jonas n'a plus les choses en main. Tu as voulu t'éloigner de moi, dit Dieu. Eh bien, ok. Mais maintenant, ton éloignement devient plus lointain, plus mystérieux que tu ne pouvais l'imaginer. Regarde où je t'amène. Et forcément, il n'a plus qu'une seule alternative, c'est crier à celui qu'il est en train de fuir. Ce qui est extraordinaire, et là je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais tant pis, je vais quand même le faire, c'est que quel que soit l'endroit où l'on puisse se trouver, Dieu nous entend toujours. Normal, hein ? Eh oui, c'est une évidence, mais c'est peut-être pas une évidence qui vient parfois au moment où on en aurait le plus besoin, je dirais particulièrement dans les moments de souffrance que l'on peut vivre, d'interrogation face à une injustice. Crier à Dieu, c'est peut-être pas forcément le premier réflexe qu'on peut avoir. On essaie peut-être d'abord, comme les marins, de ramer, de se débrouiller. David a écrit au psaume 139 cela de façon extraordinairement beau, poétique, montrant ainsi cette action de Dieu, omnipotence, omniprésence. Verset 6 du psaume 139, même verset 5. « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face ?» Tiens, Jonas, c'est pas pour toi, ça ? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, tiens, pourquoi pas Tarsis ? Là aussi, ta main me conduira, ta droite me saisira. Tempête, poisson. Si je dis, au moins, les ténèbres me couvriront. Fond de cale. Eh bien, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Et c'est là que David continue le texte en montrant la perfection et la beauté de la création du fœtus dans le ventre de la mère, etc. Je ne peux pas m'éloigner de toi. Et quand bien même j'aurais envie de le faire, tu es toujours là en train de me récupérer, de me chercher. C'est exactement ce que fait Jonas et ce que vit Jonas. Oui, cette évidence, pour nous, chrétiens, 21e siècle, qui avons l'Ancien et le Nouveau Testament, que Dieu entend toujours quand on crie à lui, où que l'on soit, c'est une évidence. Mais je voudrais vous replacer dans le contexte de l'Ancienne Alliance, dans lequel se trouve Jonas, où Dieu se manifestait de façon différente que dans la Nouvelle Alliance, car le Saint-Esprit n'avait pas été répandu. Dans un texte, vous voyez comment la Bible nous parle elle-même et nous donne des réponses. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 8, c'est au moment où Salomon termine la construction du temple. Magnifique bâtiment, extraordinairement beau et grand. Et ce jour-là, c'est le jour de la dédicace, c'est-à-dire qu'on le donne à Dieu, on l'offre à Dieu, et il y avait des sacrifices, il y avait plein de choses, etc. Et Salomon fait une prière à Dieu, très longue, qui quasiment donne une bonne partie du chapitre 8. Écoutez bien, je ne vais pas toute la lire, hein, je fais juste quelques petites portions volontaires. Par exemple, verset 31. Si quelqu'un pèche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le, car Dieu habitait dans cette maison. Et on devait venir avec des sacrifices pour demander pardon à Dieu, les sacrificateurs portaient le sang, etc. Mais Dieu était là. Il y avait d'autres endroits, Bethel, etc., où on pouvait apporter des sacrifices, mais Dieu résidait dans le temple, c'était la maison de Dieu, comme le tabernacle dans l'Ancienne Alliance, le lieu très saint. Donc quand tu viens dans ta maison, dans cette maison, Seigneur, exauce-le, il vient chez toi. Verset 33, « Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi, pour avoir péché contre toi. S'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce des cieux. » Logique, on est d'accord. Un peu plus loin, verset 37. « Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, et étende les mains vers la maison. » Oh, il y a une différence là. On n'est plus dans la maison, hein. On est vers la maison. C'est révolutionnaire, hein. C'est prophétique, hein, ce qu'il dit là, Salomon. Vers la maison. Alors, exauce-le des cieux. N'est-ce pas? Verset 44. « Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il adresse à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville. » On n'est même plus dans les mains, on est vers les regards tournés vers la ville que tu as choisie. « Exauce des cieux. » Verset 48 ou 46. « Quand ils pêcheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux, que tu les livreras à l'ennemi qui les amènera captifs loin de leur pays. » Et ce sera le cas, à Syrie, Babylone, etc. Verset 47. « S'ils rentrent en eux-mêmes, dans le pays où ils sont captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des prières dans le pays de ceux qui les ont amenés, » donc cette fois, ils sont plus à Jérusalem, ils sont loin, dans un pays quelconque. Verset 48. « S'ils reviennent à toi de tout leur cœur, de toute leur âme, dans le pays de leur ennemi et qui les ont amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers le pays, » que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie, et vers la maison que j'ai débâtie à ton nom, exauce des cieux et pardonne, etc. Vous voyez? Quelle progression dans la prière de Salomon. Au départ, on est dans la maison, et après, parce qu'il y a une impossibilité de s'y trouver, à cause des circonstances dramatiques, il faut donner une solution. Il faut qu'ils puissent savoir que s'ils s'adressent à Dieu en regardant simplement les choses, par la foi, le regard de la foi, bien évidemment, il est là. Dieu peut exaucer. Et c'est ce qui se passera. Prière de Daniel à Babylone, chapitre 9 de son livre, qui confesse le péché des peuples, des pères, etc. Et qui s'humilie. Il y a une délivrance. Et ils repartent chez eux, etc. Donc pour Jonas, il est dans cette perspective-là aussi, n'est-ce pas, de vision de Dieu. Et c'est pour cela que, il me semble en tout cas, il le précise de cette manière-là. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. On a l'impression que pour un prophète, ben oui, ben c'est normal, Jonas, tu connais pas Dieu? Bien sûr que si tu cries, il entend. Ben ouais, mais j'étais dans le séjour des morts. J'étais pas à Jérusalem, j'étais pas dans sa maison et il a entendu ma voix. On a l'impression que pour Jonas, c'était quelque chose de formidable à vivre, une expérience extraordinaire. Quand mon âme, verset 8, était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Comment, Jonas, tu as oublié Dieu? Toi, le prophète? N'est-ce pas? Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Vous voyez, on a l'impression que c'est quelque chose qui est particulier, qu'il a vécu une expérience particulière. Oui, ma prière est montée jusque là-haut. Alors que j'étais là dans le ventre du poisson. Où que vous soyez, même loin de Jérusalem, mes enfants, si vous priez avec foi, je vous écoute, je vous entends. Ce que dira l'apôtre Paul d'une autre façon, 1 Timothée 2:8, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Priez en tout lieu, soyez purs dans votre prière, où que vous soyez. Alors la prière de Jonas, bien sûr, est d'une grande profondeur, c'est un jeu de mots. Elle décrit d'une manière émouvante toutes ses impressions, toutes ses angoisses. C'est le propre de toute prière, j'ai envie de dire de supplication, parce que là on y est, car elles sont motivées par une situation généralement difficile, qu'il faut gérer. Et là, Jonas, je ne sais pas si vous le sentez comme moi, mais il nous donne l'impression d'un homme assommé, à terre. Et là, il n'est pas à terre, il est quelque part, dans le poisson. Mais il a pris un coup, peut-être décisif, et il n'a pas d'autre solution, cette fois, que de se souvenir de l'Éternel. Dans sa bonté, et je fais une autre remarque, Dieu a donné à l'homme la possibilité d'exprimer ses émotions. Ça paraît une évidence, mais là encore, c'est pas forcément si évident que ça. C'est important, c'est d'exprimer ses émotions. On le sait de plus en plus, même aujourd'hui. sans rentrer dans la psychanalyse, etc. C'est important de pouvoir exprimer. Comment exprimons-nous nos émotions? Les exprimons-nous en tant que chrétiens? Ou bien sommes-nous de ceux qui, par pudeur, gêne, honte, orgueil peut-être, ne veulent pas montrer ce qu'il y a au plus profond d'eux-mêmes? Comment exprimons-nous nos émotions? Le Nouveau Testament nous fait découvrir Jésus comme ayant eu une vie émotionnelle intense et incroyablement profonde. Il ne s'en cache jamais, montrant ainsi publiquement qu'il est pleinement homme, un homme de chair, un homme de sang, tout en étant aussi Dieu, bien sûr. Cette dualité nous dépasse, au passage. Et Paul écrivait ceci, « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, même des sentiments émotionnels. Et certains d'entre eux furent plus profonds, plus intimes, plus importants que d'autres parfois. Je pense au chagrin et à la douleur que Jésus a su exprimer et ne s'est pas caché. Il aurait pu dire, comme on entend parfois ces expressions, « Un homme, ça ne pleure pas. » Jésus a pleuré. Il a pleuré à la mort de Lazare. Il a pleuré en face de Jérusalem. Il a eu du chagrin. Il a eu des angoisses, à la croix en particulier, avant, à Gethsémané. Je pense aussi à la colère, nous en avons parlé. Vous souvenez? Je crois que je ne sais pas si vous avez apporté une étude sur ce sujet, je ne me souviens plus. Quand il entre dans le temple, où il chassait les vendeurs. Hein, mais c'est une colère sainte, juste. Hein, non pas animé de haine et de passion mauvaise, comme nous avons parfois, souvent, dans nos colères. Non, mais c'était les sentiments qu'il a vécus, et il les a exprimés. Comment exprimons-nous nos émotions? Est-ce que lorsque nous nous retrouvons dans une réunion de prière ensemble, si nous sommes saisis aux tripes par quelque chose, eh bien, est-ce que nous savons nous lâcher aussi? Et montrer ainsi, non pas une faiblesse, mais notre humanité simplement. Souffrir avec ceux qui souffrent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent, c'est des émotions, l'une comme l'autre. Jonas, concernant cette prière, nous pouvons faire une remarque, à savoir que c'est une véritable collection tirée des psaumes, tout ce qu'il dit dans sa prière. On a l'impression que Jonas ne fait que réciter des bribes de psaumes, de textes, qui d'ailleurs correspondent bien à sa situation. Mais si vous avez une Bible en parallèle, vous pourrez en voir pas mal de psaumes. Jonas n'est pas le premier venu, il connaissait bien les écrits et il s'en est souvenu au moment où il fallait. Je pense à ce témoignage de Portes Ouvertes, il y a quelques années déjà, hein, dans une revue, où il était fait question de personnes qui étaient emprisonnées, chrétiens, à cause de leur foi. Et quand ils sont arrivés pour la première fois dans leur prison, tout en étant très très lucides, hein, sains de corps et d'esprit, encore, parce qu'ils savaient que ça pouvait ne pas durer, ils ont demandé à leur geôlier s'ils pouvaient avoir du papier et du crayon, et des crayons. Ça leur a été accordé. Et la chose qu'ils ont faite ensemble, ils se sont dit, il faut qu'on rassemble tout ce que nous savons sur la parole de Dieu. Les versets que nous connaissons, les histoires, etc., il faut les écrire. Et ils sont plus ou moins arrivés à rassembler ou à reformuler un évangile avec les histoires de Jésus, etc. Et ils ont écrit tout ça et ils ont caché ces papiers quelque part dans leur cellule. Et effectivement, quelques temps plus tard, privation, etc., ont fait qu'ils étaient plus au clair et ils se souvenaient plus trop de ce qu'ils avaient emmagasiné. Et donc, ils avaient de temps en temps l'occasion de reprendre ce papier et de lire ces versets qu'ils avaient retranscrits. Et le témoignage disait que ça a été pour eux vraiment extrêmement salutaire. Une force. Ils avaient la Bible. On leur a pas donné. Ils l'avaient eux-mêmes plus ou moins retranscrit comme ils en avaient souvenir. Importance d'apprendre la parole de Dieu. Alors, je dis pas ça pour vous donner des leçons, hein, parce que je me regarde aussi. Hein. Importance d'apprendre la parole de Dieu. Nous ne savons pas ce que sera demain. On pourrait penser que nous aurons toujours la Bible avec nous. J'espère, mais c'est pas sûr, on n'en sait rien. Importance donc de la lire et d'apprendre, de retenir des textes pour pouvoir les garder. Car on ne pourra pas redonner ce qu'on n'aura pas entré. C'est une évidence. Et dans sa prière, alors Jonas ne demande rien à Dieu. C'est explicitement en tout cas, car implicitement, quand même il dit « j'accomplirai les vœux que j'ai faits ». On peut peut-être supposer que dans son drame, il aurait fait un serment, peut-être celui de l'obéissance, enfin, si Dieu le sort de cette situation pour la moins inconfortable. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Ou bien fait-il simplement allusion à son appel, comme prophète, jadis, datant d'il y a quelques années en arrière, en se disant, peut-être quand il dit « je me suis souvenu de l'Éternel », sous-entendu, je me suis rappelé, oui, je suis prophète de l'Éternel, donc je dois obéir à Dieu. Tant pis, si je suis pas d'accord d'aller là-bas, je vais quand même le faire, quoi. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Mais en tout cas, il ne dit pas explicitement « Dieu, sors-moi de là !» Et on verra après, et on discutera, donnant, donnant. Voilà, avec Dieu, ça marche pas comme ça. Humilie-toi d'abord, on l'a vu cet après-midi. Repens-toi d'abord. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Il y a des paroles parfois que l'on prononce un peu rapidement, n'est-ce pas? Et on les met pas forcément en pratique. Hein. On dit beaucoup de choses. Hein. Est-ce que quand on dit quelque chose à Dieu, est-ce qu'on fait un vœu à Dieu, une promesse à Dieu, est-ce qu'on les tient toujours? Je pense à cette parole du prophète. Ça me fait penser à l'exemple d'Anne dans l'Ancien Testament, femme d'Elkana et mère du prophète Samuel, qui était stérile. Et l'autre femme d'Elkana, elle avait des enfants à profusion. Et puis elle lui disait, lui faisait savoir, moi j'en ai, toi t'en as pas, moi j'en ai rien encore et toi t'en auras pas, etc., etc. Alors Anne, au bout d'un moment, qui voulait des enfants, c'était dur. Et alors elle épanche son cœur à Dieu, et d'ailleurs le prophète Élie, le sacrificateur Élie, la croit ivre à ce sujet. Et donc elle dit à Dieu, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Là, il y a une condition, c'est vrai, c'est un peu différent de Jonas. Et ce que je veux mettre en avant, c'est la parole donnée et la parole appliquée après. Je veux pas peut-être remuer le couteau chez certaines dames ce soir, je ne vous connais pas, mais celles qui ont eu des enfants savent que bon, c'est un moment important dans la vie. Mais là, le premier enfant qu'elle demande à Dieu, quelque part elle dit « tu me le donnes, je te le donne ». Elle dit pas « donne-moi deux, je t'en donnerai un ». Donc elle en a pas, elle en veut. Et elle en veut pourquoi? Ben oui, parce qu'elle veut vivre la maternité, vivre aussi, élever un enfant, etc. Et elle dit « non, si tu me le donnes, je te le donne ». C'est incroyable, hein? Alors, on pourrait se dire, ouais, elle dit ça parce que, bon, elle y croit pas trop. Facile. Elle est stérile, elle peut pas. En même temps, je crois pas. Elle croit à la puissance de Dieu. Elle a foi en Dieu. Et Dieu lui donne. Et quand il lui donne, elle pourrait se dire, je parle un peu vite, là. Ah, c'est le premier, Seigneur. Tu m'en donneras bien un deuxième que je te consacrerai. Ah, oh, et ta parole? Ah, non. Et elle l'a fait, n'est-ce pas? Elle l'a donné, à 12 ans, petit, elle l'a lâché. Hein, imaginez un petit peu, un petit bout de chou, là. Hop, il part, elle le voyait qu'une fois par an, à peine, pour lui apporter un vêtement nouveau, parce qu'il grandissait. Ah, c'est fou, hein? Elle ne voyait pas son fils, elle ne l'a pas vu grandir. Ah oui, la frontière n'est pas toujours simple à discerner entre une demande et ce qui pourrait bien ressembler parfois à un chantage, quand nous prions Dieu. Et je me regarde, hein, quand je fais ça, hein. Chantage qui pourrait nous faire chuter dans l'attitude qui consisterait à tenter Dieu. Et là, on est sur un terrain glissant. Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Et parfois, moi, je le vois pour moi, dans mes prières, est-ce que je suis pas un petit peu, des fois, dans la tentation, hein? Seigneur, tu vois, je te sers à plein temps, quand même, hein, j'ai lâché plein de choses pour te servir et tout, tu pourrais faire mieux, hein, etc., tu pourrais accorder ça et ça. Et oui, attention. Oui, le Seigneur, avant même de nous entendre, lit bien dans notre cœur et nos pensées, et il connaît parfaitement les sentiments profonds de notre âme. C'est ce que dit Jésus en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Mais il faut quand même que vous le lui demandiez, il le veut, il veut que vous exprimiez. C'est une façon d'exprimer ses émotions aussi, hein, de demander à Dieu. Parce qu'il y a la manière aussi de demander. Ou bien encore ce texte de Paul aux Romains, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ça c'est tout un autre sujet, hein, que celui de la demande exaucée ou non exaucée. Donc je n'y rentre pas ce soir. En tout cas, Dieu exauce Anne, comme il exauce aussi Jonas, en le délivrant du poisson, parce que je suis convaincu qu'il a vu dans le cœur de ces personnes et d'autres, hein, que nous pourrions donner comme exemple, la vraie crainte de Dieu, et pour Jonas, certainement, et enfin, la bonne attitude. Ah, ça y est, cette fois, tu as compris que tu n'as pas le choix d'aller à Ninive, que je te veux là-bas. Ouais, ok, ok. Et vous verrez quand même demain que Jonas, pas si clair dans sa tête encore, mais on le voit pas là encore. C'est pourquoi, troisième et dernière pensée pour ce soir, la remontée à la vie. On peut dire que Jonas s'en sort parce qu'il s'est secoué. Il s'est réveillé. Il a quand même dit, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Donc, voilà, j'ai réagi. J'ai crié. J'ai fait quelque chose. Et je crois que cet exemple-là, à ce moment-là de Jonas, est un exemple puissant. Et un puissant réconfort, nous qui nous laissons peut-être abattre si facilement par l'adversité ou par l'opposition de ce monde. Ces dernières finissent aussi par paralyser nos forces vives, si nous n'y faisons pas attention. Mais Jonas, malgré son caractère et sa mauvaise foi, a su crier au bon moment. Et nous ne sommes pas parfaits non plus, n'est-ce pas ? Nous ressemblons bien souvent à Jonas, on en parlait encore tout à l'heure avec quelqu'un à la sortie de la réunion. Combien il nous ressemble, combien nous lui ressemblons ? Il a su discerner par son expérience hors du commun la main de Dieu qui l'a poussé, c'est vrai, derrière ses retranchements. Et dans sa patience et dans son amour, Dieu va appeler son serviteur, va le rappeler à l'ordre. Oh, il aurait pu très bien lui dire, oh, écoute Jonas, maintenant j'en ai ras-le-bol, tu es têtu, je ne peux plus rien faire avec toi, alors je te laisse à la mer. Ou à la limite, je te laisse dans le poisson. Mais dans le poisson, il a réagi quand même. Mais dans l'eau, Jonas, ben voilà, là, Seigneur, les cartes sont faites, sont tirées, c'est joué, hop, je vais me noyer. Mais comme ça, on n'en parle plus, il n'y a pas de mission. Non, Dieu est là, toujours, pour prendre vers lui ce qu'il veut avoir vers lui. Cette fois, Jonas est un peu quand même chaos. Il crie à Dieu, acceptant et reconnaissant ses responsabilités dans ce qui lui arrive. Vous savez, il y a encore une fois, et vous voyez, je cite encore un exemple de l'Ancien Testament, un roi qui s'appelait Manassé, qui était un des pires rois qui régnait sur Juda. Il était fils du pieux roi Ézéchias. Il faut dire qu'Ézéchias, ça n'a pas dû être facile. Et il n'a pas forcément vu d'ailleurs son fils, ce qu'il a fait. C'est vrai que Manassé était né pendant la période de sursis qui avait été accordée à son père et durant laquelle ce dernier devint orgueilleux. C'est vrai aussi qu'à 12 ans, lorsqu'il monta sur le trône, Manassé, il a pu facilement être le jouet de mauvais conseillers. Faut imaginer. Toujours est-il qu'il a entraîné son peuple à faire le mal, dit le texte, plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les fils d'Israël. C'était costaud, hein, ce qu'il a fait. Il a pratiqué l'occultisme, il a sacrifié son propre fils, placé une idole dans la maison de Dieu. Outre toutes ces abominations, Manassé commet des atrocités. Dieu l'avertit, mais il n'y prend pas garde. Conscience, pas question. Judas, d'accord, mais j'en veux pas. La justice de Dieu s'exerce-t-elle enfin ? Là, à Babylone, il est lié de chaînes, Manassé. Dans la détresse, comme dans le poisson pour Jonas, il se repent contre toute attente. Il s'humilie, il crie et il supplie l'Éternel. Ce gars-là, on aurait pu se dire, il n'y a rien à faire avec lui. Il a un cœur méchant, dur. Eh bien, dans la détresse, dans le tourment, dans la souffrance, il s'est humilié. Sincèrement, il a crié à Dieu. Et voici le texte, ce que dit le texte. Quand Manassé fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu. Il s'humilia beaucoup devant le Dieu de ses pères et il pria. Il se laissa fléchir par lui. Il écouta sa supplication, Dieu, et il le ramena à Jérusalem dans son royaume. et Manassé reconnut que c'est l'Éternel qui était Dieu. Merveilleuse grâce divine. Qui aurait pu dire, de toute façon, Manassé, avec tout ce que tu as fait, non. Je l'ai dit cet après-midi, il n'y a pas de grave péché devant Dieu qui ne puisse être pardonné. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et quand nous voyons quelqu'un, un proche ou quelqu'un que nous connaissons être dans une situation dramatique, difficile, et c'est vrai que parfois on a cette pensée de dire, ouais, mais avec lui, il n'y a rien à faire, on ne va pas y arriver, à l'évangélisation, c'est pas possible ce qu'il fait. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Manassé, suite à ça, s'est mis à servir l'Éternel, il a détruit les idoles qu'il avait faites, donc on voit une demi-tour, une conversion, hein, en rétablissant les sacrifices prescrits. Oui, cet exemple de la grâce de Dieu doit nous encourager à tourner nos regards vers ce Dieu-là et à nous humilier quand il le faut, je l'ai dit cet après-midi. Je pense aussi, et là je veux insister peut-être un peu là aussi, à l'histoire, on peut mettre les images du fils prodigue qui a vécu un petit peu la même chose. Hein. N'est-il pas, lui, le fils prodigue, entré en lui-même, reconnaissant son mauvais choix? N'est-il pas allé à la rencontre de son père en espérant que ce dernier lui donnerait un poste de serviteur, il espérait maximum ça. Et quand son père le voit arriver, parce que c'est quand même extraordinaire de voir que ce père qu'il a laissé partir scrute l'horizon et le voit arriver de loin et court vers lui en s'écriant « Voilà, mon fils qui était perdu et il est retrouvé, il était mort et il est revenu à la vie ». Il n'y avait plus d'espoir, mais il a réalisé, ce garçon, ce qu'il avait fait. Et là, je voudrais faire une remarque. Cette parabole est tirée des paraboles de la grâce, trois paraboles ensemble. Je ne pense pas vous avoir parlé de ça un jour, mais qu'importe si je l'ai déjà dit une fois, ça me paraît important de le rappeler. Les trois paraboles sont ensemble. Vous avez la première parabole, qui est la parabole de la brebis perdue, où le berger perd une brebis, laisse les 99, il en avait 100, et va chercher la brebis perdue. Vous avez la deuxième parabole qui est la femme qui perd une pièce sur 10 dans sa cuisine, dans sa maison. Et elle balaye partout pour chercher sa pièce. Et vous avez la troisième parabole, celle-ci que j'ai citée, qui est différente des deux premières. Différente comment? À savoir que ce qui est perdu, on ne fait rien pour le chercher. Le fils. Le père ne bouge pas. Alors que le berger est parti, la femme a cherché. Et oui, pourquoi? Parce que la brebis, elle ne pouvait pas venir toute seule. Que la pièce, encore moins, un objet. Hein, il ne va pas venir comme ça. Il fallait aller le chercher. Le fils, dans la parabole, c'est un être humain. Il a une intelligence, il a une conscience. On en a parlé cet après-midi. Elle doit jouer sa conscience. Il y a un truc, il doit faire quelque chose. Eh bien, il y a ici... Rien que dans ces trois paraboles, le plan du salut de Dieu qui est la rencontre. À savoir que Dieu, permettez-moi l'expression, mais a fait son boulot, a pris ses responsabilités, c'est peut-être mieux de dire ça, il est venu à la rencontre des hommes, comme la brebis, comme le berger vers la brebis, comme la femme vers la pièce. Parce que nous ne pouvions pas aller vers lui. Pourquoi? Parce que le péché nous séparait de lui. Il est venu sur la croix et là, il nous a gracié. Il a enlevé l'obstacle. Mais attention, nous devons aller à sa rencontre. Et là, la croix devient le carrefour. Il est descendu sur la croix, moi j'y viens au pied de la croix. Parce que je suis un fils, je raisonne, je reconnais mon péché et je vais lui demander pardon. Mais j'y vais. Vous voyez là? La conception, la rencontre est une, avec Dieu, c'est deux mouvements convergents. Il ne faut pas qu'il y en ait un et pas l'autre, sinon il n'y a pas de salut. Il faut que je sois moi venu, parce que lui l'a déjà fait. Ce qui est extraordinaire encore, c'est de remarquer que pour ces exemples, Manassé, le fils prodigue, Jonas, dans son poisson, lorsque tout paraît perdu à vue humaine, tout se retrouve, tout se transforme. Dieu a l'art de retourner les situations, l'art de redonner espoir à ceux qui n'en ont plus. Je ne vais pas rajouter encore un exemple, mais pensez au brigand sur la croix. Parce que alors lui aussi, c'était perdu, et bien, il est arrivé au paradis. Hein. Mais il a fait quelque chose aussi. J'en arrive donc à la réponse à notre interrogation. Jonas a-t-il réellement vécu l'expérience du poisson? Ou bien a-t-il imaginé, rêvé, etc.? Alors oui, bel et bien vécu, Jonas, cette expérience. C'est une histoire vraie, et ceci pour une raison majeure que le Nouveau Testament nous dévoile. Et c'est Jésus lui-même qui nous le dit. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12 et au verset 38. Matthieu, chapitre 12, verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas ? Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement. » Avec cette génération, et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Ça, nous le verrons demain matin. Et voici, vous avez devant vous plus que Jonas. Ce que nous devons comprendre au travers de cette parole de Jésus, qui est vraiment importante, c'est que Jésus ne se serait jamais comparé à un homme dont l'histoire serait un conte ou une histoire imagée. Cela aurait été de sa part prendre le risque, et quel risque, de faire supposer que sa propre mort et sa propre résurrection ne seraient pas non plus réelles, puisqu'il compare le séjour de Jonas dans le poisson à son propre séjour qui va venir au sein de la terre, mort et ressuscité ensuite. Jésus utilise l'histoire de Jonas pour annoncer sa résurrection en comparant son séjour au tombeau, au séjour du prophète dans le ventre du poisson. Et lorsque Jésus répond « De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson », de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Vous rappellerez de ce que je vous ai dit quand cela va arriver. Mais Jonas est vrai. Et ce que je vais vivre est vrai. Alors cette génération qualifiée au temps de Jésus de méchante et adultère, qui demandait un miracle, devra voir en sa mort et en sa résurrection sa nature divine et croire en lui. Pas question de faire des miracles pour faire des miracles. Vous allez en voir un bientôt, celui de la mort et de la résurrection. Et il dit, en terminant sa parole, « Vous avez ici plus que Jonas. Je suis, moi, plus que Jonas, fils de Dieu. » Alors un tel doute ne peut donc exister, car il remettrait en cause l'efficacité du pardon acquis par sa mort, n'est-ce pas, et l'assurance de la vie éternelle obtenue par sa résurrection. Paul le dit en Corinthiens 15, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi, zéro pointé. Vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. Pas d'espérance, rien. Mais Christ est ressuscité des morts, dira Paul. 3 jours, 3 nuits et résurrection. » De plus, je pense ne pas me tromper en faisant remarquer que c'est la seule fois que Jésus compare aussi clairement un fait majeur de son œuvre, la résurrection, avec celle d'un prophète de l'Ancien Testament. À ma connaissance, bon, je peux me tromper, hein, à ce moment-là, donnez-moi d'autres, dites-le-moi, mais Jésus n'a pas comparé un fait particulier comme ça, aussi clairement, en citant un personnage, comme il cite Jonas. Et j'en arrive donc tout naturellement à repérer la deuxième préfiguration de Christ dans ce livre. Cet après-midi, nous avons vu l'idée de substitution. Jonas qui a dit, pour ceux qui n'étaient pas là, « Jetez-moi à l'eau et vous serez sauvés du naufrage. » Jésus qui, lui, a pris la place à la croix, notre place, pour nous sauver de la mort éternelle. Mais j'ai précisé que la préfiguration n'était pas parfaite, car Jonas était un coupable qui avait désobéi à Dieu, alors que Jésus, lui, est le juste qui obéissait à Dieu en allant sur la croix. Mais le sens, le fond de substitution était important à souligner. Alors ici, bien sûr, nous avons l'expression, on peut la placer, 3 jours et 3 nuits, qui est une évidence avec Matthieu 12 que nous avons lu. Hein. C'est le miracle de l'ensevelissement de Jonas qui devient à ce titre un type, ou du moins une image saisissante de ce qui est arrivé à Jésus. Mais attention, là encore, comme pour le premier, la première préfiguration, ce signe, ce second signe christologique n'est pas non plus parfait. Pourquoi? Parce que Jésus est mort sur la croix, alors que Jonas, lui, a été délivré de la perspective de la mort. Il n'est pas mort, n'est-ce pas? Christ est ressuscité. Jonas aussi est quelque part ressuscité, mais pas réellement, puisqu'il n'était pas mort. Mais on voit cette image de 3 jours, 3 nuits, la même chose sont arrivées, mais pas dans la même circonstance. L'un était réellement mort et ressuscité, et lui n'était pas mort, mais il est quand même délivré de la perspective de la mort. « Ô mort, dira l'apôtre Paul, où est ton aiguillon ?» Ainsi, ici pour Jésus, on parle de résurrection, car mort attestée, pour Jonas, on parle de délivrance seulement. Alors, il me faut conclure pour ce soir. Pour Jonas, on pourrait penser qu'il y a désormais un avant et un après l'épisode du poisson, n'est-ce pas? Comment peut-on vivre de la même manière après une telle expérience? Que nenni! Nous le verrons demain. Nous comprenons alors que ce que disait Luther, le vieil homme sait nager et on ne le noie pas facilement. Il revient au galop, hein? Il est là, quelque part. Et s'il y a chez Jonas le désir de l'obéissance, on le remarque dans sa prière, hein, « J'accomplirai les vœux que j'ai faits », en même temps, il y a l'envie de faire un peu comme il lui semble bon. Il a un sacré caractère. La crainte et le respect qu'il a pour Dieu, pour sa patrie, pour sa religion, l'aveugle, au point d'en oublier la nature même de Dieu. Et ça, nous allons le voir demain. Jean-Baptiste s'est écrié en voyant venir Jésus à lui se faire baptiser, « Il faut qu'il croisse » et que je diminue. C'est un principe intéressant. Il faut que Christ croisse et que moi je diminue. Il avait bien, Jean-Baptiste, saisi cette nécessité de laisser tout son être entre les mains du Maître pour pouvoir être le plus obéissant quand il le faut. Notre moi naturel est orgueilleux, égoïste et confiant en lui-même, malgré toute notre piété ou notre bonne volonté, doit être enseveli. Si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt. Jésus est réellement mort, et d'ailleurs dans le texte de Jean, il le prend en parallèle avec sa mort. Jonas est mort dans le sens spirituel du terme, il a compris. Mais si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et ô combien Jonas va pas être au bout de ses surprises en voyant les fruits qui vont arriver. Celui qui aime sa vie la perdra, dit Jésus. Mais celui qui est à chahuter sa vie la conservera pour la vie éternelle. Voilà dans quelle situation nous pourrions et nous devrions nous trouver. Et que cette expérience de Jonas nous conduit un petit peu à aller dans cette réflexion. En tout cas, puissions-nous réaliser peut-être ce soir si... Eh bien, nous nous sentons dans le ventre d'un poisson perdu et crions à Dieu. Crions à Dieu. Et il nous entendra. Et il exaucera si nous sommes sincères devant lui. Que son nom soit béni. Amen. Nous allons prier encore. Seigneur Jésus, nous te bénissons et te rendons grâce pour ces moments que tu nous donnes de passer encore ensemble et nous te remercions pour cette parole. Ô combien, Seigneur, je me sens si petit face à ces textes et j'espère, Seigneur, que tu as su toi-même vraiment parler, je le sais, par la foi, au cœur des uns et des autres, par le Saint-Esprit. Seigneur, tu pourras et donneras à chacun la possibilité de réfléchir encore et d'aller plus loin dans ce qu'il a entendu, ce que tu lui as dit et ce qu'il est convaincu de faire peut-être au fond de son cœur. Seigneur, veuille interpeller encore chacun d'entre nous. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous sommes si rebelles et où tu es obligé, comme tu l'as fait pour Jonas, d'utiliser des manières peut-être fortes ou d'aller jusqu'à l'extrême. Seigneur, que de temps perdu, parfois, à cause de notre incrédulité ou de notre entêtement. Seigneur, viens au secours de cette incrédulité. Augmente notre foi, Seigneur. Si ce soir quelqu'un se rend compte qu'il faut qu'il fasse un pas avec toi, un pas de foi, eh bien qu'il le fasse, qu'il n'attende pas demain. Demain ne lui appartient pas. C'est aujourd'hui que le Seigneur te demande quelque chose. Oui, Seigneur, merci pour ton amour et pour ta patience que tu manifestes aussi à ton prophète, que tu as manifesté et que tu manifestes encore pour chacun d'entre nous. C'est en ce nom que nous te prions. Amen.
J'ai juste envie de dire, pour terminer, merci à Frédéric pour son punch, pour son sérieux, son engagement. Merci à Dieu qui parle à nos cœurs, à notre conscience, à ce Dieu qui pardonne, qui sauve, et réfugions-nous dans les bras du Tout-Puissant. Bonne rentrée à chacun et à demain pour le culte. Oui, Louise? Les jeunes se retrouvent en bas. Okay?